Nous lirons aujourd'hui un texte extrait du livre des Juges, au chapitre 6, les versets 1 à 24. Et je le lis dans la version dite de la Colombe, une des versions second, et un petit peu modifiée sur quelques termes. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des trous dans les montagnes et des cavernes et dans les endroits escarpés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et avec les Bédouins de l'Orient et il campait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très appauvri par Madian. Et les Israélites crièrent à l'Éternel. Et lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Puis vint le messager de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas du clan d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Le messager de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. » « N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui répondit, « Mais mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël ? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui répondit, « Si j'ai obtenu ta faveur, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Il dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon alla préparer un chevreau et fit avec une portion de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans une corbeille et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Le messager de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, dépose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. Le messager de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha les chairs et les pains sans levain. Alors du rocher monta le feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et le messager de l'Éternel disparut à ses yeux. Et Gédéon vit que c'était le messager de l'Éternel. Gédéon dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu le messager de l'Éternel face à face. » Mais l'Éternel lui dit, « Sois en paix et sans crainte, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Et il existe encore aujourd'hui à Ophra d'Abiézer. Alors, qui sont les vaillants héros? Nous pouvons avoir en tête des noms venus des événements de l'histoire d'un peuple, d'un pays, d'une région, des noms que des circonstances et des situations particulières ont mis en avant, et des noms qui restent inscrits dans les mémoires, dans des livres, sur des monuments. Ou encore, souvenons-nous, il y a presque 2 ans, c'était les soignants qui étaient applaudis tous les soirs et les cloches du foyer de l'âme sonnaient aussi pour les encourager, pour les remercier, et avec eux, celles et ceux qui assuraient des tâches indispensables et pourtant peu valorisées. Nous pouvons penser aussi à celles et ceux qui viennent en aide, à ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui sont affligés, ceux qui sont méprisés. Nous pouvons penser aux bénévoles de l'épicerie solidaire du 11e arrondissement, aux bénévoles des associations qui, à Calais et ailleurs, tentent de maintenir la dignité des migrants chassés, refoulés, renvoyés. Aucun de ceux-là ne cherche à être qualifié de vaillants héros. Ils disent qu'ils font ce qu'il faut faire, qu'ils font ce qu'ils doivent faire en conscience et au quotidien. Faut-il une guerre, un conflit, une crise pour devenir un vaillant héros? Il n'en manque pas. Il n'en manque jamais de guerre, de conflit et de crise. Madian fond sur les Israélites comme un rapace sur sa proie. Et aucun Israélite ne se sent être un vaillant héros. Ils sont réduits à se terrer, quasiment à s'enterrer, dans les trous des montagnes, sans autre certitude pour le lendemain qu'une attaque. Une attaque de Madian qui pille et détruit. Se terrer, s'enterrer dans l'angoisse du lendemain, l'angoisse de la famine, de la mort, en tâchant de sauvegarder un peu de bétail, un peu de grain. Se terrer, s'enterrer. En quelque sorte, oui, faire le mort, ce n'est pas une vie. Et surtout, là, il n'y a pas de paix. Pas de paix en Israël. Mais la paix, shalom, ce n'est pas seulement l'absence de conflits armés. Le mot hébreu « shalom » est construit sur une racine évoquant l'idée de rendre entier l'intégrité, la plénitude, la restauration. Et ce récit est suffisamment précis pour décrire, c'est-à-dire pour faire comprendre au lecteur, ce qu'est la paix et ce qui l'empêche. Shalom, la paix, est déployée dans plusieurs dimensions. 4. Celle de la spiritualité, celle du sens, celle de la justice et celle de la confiance. L'ensemble du livre des Juges est rythmé par quelques refrains très brefs, dont l'un inaugure le récit que nous venons de lire. Les Israélites firent ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Littéralement, ils firent mal. Et ce faire mal est expliqué par le prophète qui vient leur parler au nom de l'Éternel. « Vous ne m'avez pas écouté. » Et le verbe « écouter » renvoie, pour les lecteurs des Écritures, ce verbe renvoie à l'avant-première des 10 paroles de vie, le décalogue, les 10 promesses qui tracent le chemin pour une vie en plénitude, en intégrité, une vie entière et pas disloquée. Juste avant la première de ces 10 paroles, retentit le verbe « écoute ». Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Mais, raconte le livre des Juges et bien d'autres livres, de la Torah ou des prophètes, Israël n'a pas écouté. Même la libération de l'esclavage ne garantit pas l'écoute du libérateur. Alors il y a du mal. Alors il n'y a pas de paix. Car toutes ces dimensions sont altérées jusqu'à disparaître. La spiritualité. Ce mal qui fait mal, qui cause du malheur, c'est d'abord l'idolâtrie, le recours à des divinités qui ne libèrent pas, mais qui asservissent, des idoles, des idéologies, qui prétendent apporter salut et paix, ou seulement même tranquillité, mais ce ne sont que des mensonges et des illusions. Et alors la spiritualité n'est plus une dynamique de vie, mais elle s'échoue dans un encadrement de pensées, de paroles, une ritualité confinant souvent à la magie et des incantations vaines. Ensuite, le sens. Devant les assauts de Madian, qui représente une figure du mal, qui apporte le malheur, qui provoque des misères de toutes sortes, personne ne peut plus résister. C'est parce qu'il n'y a plus aucun sens. Seulement s'enfuir dans les trous des montagnes, se terrer dans des refuges qui sont comme des tombeaux et des lieux sans issue. Et c'est comme un repli sur soi, mais un soi très, très étroit et un soi très perméable à toutes les tentations d'intégrisme. Et l'intégrisme, ça n'a rien à voir avec l'intégrité. Ça a tout à voir plutôt avec l'esprit de division. Perméable aux tentations de populisme, de nationalisme, tout ce qui est propice à fabriquer des ennemis. Et cela empêche la paix. Troisième dimension, la justice. Eh bien, dans ces conditions, quand la spiritualité est desséchée, quand il n'y a plus de sens, les relations entre les personnes, à l'intérieur du peuple d'Israël ou de toute société, ces relations sont profondément abîmées. Le livre des juges se termine par une petite phrase très simple. Chacun en Israël faisait selon son bon vouloir. Quand c'est comme ça, la justice comme socle de la possibilité de vivre ensemble n'a plus cours. Et sans justice, il ne peut pas y avoir de paix. Enfin, dans cette quatrième dimension, livré à lui-même, n'a plus assez d'assurance, de stabilité en soi pour pouvoir se tenir dans l'écoute, dans le sens, dans la justice. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de confiance en soi. C'est un peu de deux manières qu'il faut l'entendre. Confiance en soi, avoir confiance en soi, mais aussi il n'y a plus en soi de confiance à donner à qui que ce soit. Et ce manque de confiance en soi, c'est aussi comme un manque de soi, un manque d'être personnel et singulier. Alors voilà, idolâtrie, injustice, manque de sens, manque de confiance en soi. Chaque terme nourrit les trois autres, chaque terme renforce les trois autres. Et au lieu des quatre dimensions de la paix, ce sont quatre dimensions du chaos qui sont déroulées. Et nous pouvons constater à quel point ce tableau correspond encore à l'actualité de notre monde, dans ses manques et dans ses misères, ses incertitudes et ses angoisses, ses divisions et ses conflits. Dans le récit, Israël est défait par Madian. Défait, mais vous savez, comme un tissage, comme un ouvrage est défait. Israël est défait, éparpillé en petits bouts dans des trous. Il est défait, démantelé par les raids, les razzias, les pillages, désagrégé au passage comme au passage d'un nuage de sauterelles. Et cela dure 7 ans. Alors au bout de 7 ans, 7 ans de défaire, vient le temps de refaire, c'est-à-dire de recréer dans ce chaos, comme aux 7 jours du premier chapitre de la Genèse, créer et recréer pour le shalom, pour la paix, recréer de l'humain. Dans la Bible hébraïque, 7 est le chiffre de la plénitude, de la bénédiction. En quelque sorte, ici aussi, c'est le chiffre de la paix restaurée de la paix restauratrice d'être. Et cette recréation, au bout de ces 7 années, cette recréation a besoin de Gédéon. Gédéon qui est occupé à battre le froment dans le pressoir. C'est-à-dire pas du tout le lieu où normalement on bat le froment ou les céréales. Le pressoir, c'est un lieu fermé, clos. Mais Gédéon est là pour battre le froment, pour ne pas être remarqué par des Madianites en quête de pillage. Mais comme ce lieu est clos, on imagine bien que Gédéon, enfermé là-dedans, à battre le froment, doit un petit peu étouffer, manquer d'air entre la paille, la balle, le grain, la poussière. Et Gédéon, c'est aussi le plus petit de sa famille, qui est la plus faible de la tribu de Manassé, laquelle n'est qu'une demi-tribu d'Israël, l'autre moitié étant Éphraïm. Après 7 ans de chaos madianite, le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu, n'est certainement pas le seul à se sentir tout petit en Israël. En quoi donc Gédéon est-il un vaillant héros ? Il y a toujours tellement de raisons de se sentir tout petit comme Gédéon. Après 2 années épuisantes de pandémie, se sentir écrasé sous l'empilement des crises économiques, sociales, sanitaires, écologiques, tassé sous les jugements toujours portés sur chacun, les classements, les catégories, la pression pour réussir sa vie, compressé par le poids des injonctions à la performance. Se sentir atterré devant ce qui se passe en Ukraine, en Birmanie, au Yémen, dans bien d'autres pays, et par la prolifération dans ce pays-ci des discours d'exclusion, de méfiance et de haine. Mais voici le temps de la recréation, de la création qui se poursuit. Et Gédéon, le petit enfoui dans le pressoir, est appelé vaillant guerrier, appelé à sauver son peuple de l'oppression de Madian. Et le peuple enfoui dans les grottes est appelé à sortir, à vivre paisiblement, chacun dans sa maison, cultivant sa vigne et s'asseyant sous son figuier. Mais pourquoi le plus petit ? Pourquoi pas le plus fort ? Pourquoi pas quelqu'un qui serait un petit peu quand même un guerrier, un vrai, éprouvé, entraîné ? Parce que la conviction de ce récit est que l'Éternel ne voit pas et ne pense pas comme nous. Parce que le plus petit, c'est la prédilection du Dieu des Écritures. Les plus petits, les fils cadets, les femmes, les malades, les réprouvés, les abandonnés, la brebis perdue, la petite Marie. Pour faire passer le salut et le shalom, les hommes forts, les puissants, ceux qui ont le pouvoir ou le prestige aux yeux du monde, ne conviennent décidément pas. Jésus de Nazareth, qui n'a jamais usé de la force, a été crucifié, révélant ainsi combien le Dieu dont il est le Christ renonce à l'usage de la force, de la contrainte, de la séduction, de tout mode de relation qui altérerait la liberté et la responsabilité des humains. L'apôtre Paul écrit dans la première lettre aux Corinthiens que Dieu choisit ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Et ce n'est pas que Dieu soit faible ou impuissant, mais c'est qu'il n'use pas d'autre chose que de dons de confiance et de grâce. Le salut et le shalom se disent dans le plus petit, qui prend confiance en lui parce que l'Éternel lui fait confiance. Le vaillant héros, ce n'est pas celui dont les muscles sont les plus endurcis, ni les armes les plus efficaces, ni la puissance la plus importante. Le vaillant héros, c'est celui ou celle à qui Dieu fait confiance, celui ou celle que Dieu appelle. Et c'est un peu difficile à croire. D'ailleurs, Gédéon n'y croit pas vraiment, enfin pas tout de suite. D'abord, il conteste, il discute, avant de dire oui. Mais c'est encore qu'un tout petit oui, conditionné à un signe qu'il exige de l'Éternel pour être sûr. La création, la recréation, le salut, le shalom tiennent à un « je serai avec toi ». Un toi qui est une personne singulière et qui n'est pas figé dans une image, dans une apparence. La bonne nouvelle de la vie et de la paix se dit avec une association, une alliance, un partenariat de confiance seulement. « Je serai avec toi », dit l'Éternel. La confiance de l'Éternel en Gédéon est solide, comme le rocher sur lequel le plus petit de Manassé dépose son offrande. « Je serai avec toi, ni sans toi, ni contre toi, et Dieu ne s'impose pas. » Pas plus qu'il ne renonce, même quand Gédéon exige ce signe. Dieu acquiesce à cette requête, car, comme nous l'avons chanté au psaume 103, il sait de quoi nous sommes formés. Le dialogue de Dieu et de Gédéon est rythmé par les mises en question, les conditions posées par Gédéon, mais Dieu accueille et prend au sérieux les paroles, le tumulte intérieur de l'homme et de la femme. Nous pouvons être incrédules et manquer de foi. Cela ne nous est pas imputé en négatif. Dieu persiste, insiste, malgré les peurs et les enfouissements dans les trous, malgré même les réactions de déni en violence face à la dureté du temps, malgré les fascinations pour les idéologies de la force et ou du chacun pour soi, malgré les tentations de céder à l'esprit de division. Ce à quoi nous sommes tous et chacun appelés, c'est un don. Le don d'un « avec toi », un don de confiance qui nous rend capables d'œuvrer, même dans le chaos, pour donner forme à la vie et à la paix. « Va avec la force que tu as », dit l'Éternel. Mais quelle est cette force? Celle dont Gédéon usait pour battre le froment dans le pressoir? Celle de Gédéon recréée en vaillant héros? Ou la force de la confiance de Dieu en lui? Car faire confiance, nous pouvons tous l'éprouver. Faire confiance, c'est donner de la force à qui l'on fait confiance. Ainsi, chers amis, nous ne savons pas quelle force et quelle capacité nous avons. Puisque notre force et notre capacité ne dépendent pas seulement de nous. Quelles que soient les circonstances, et même dans le chaos, demeure toujours cette confiance par laquelle il est possible de devenir encore, non pas en récompense, mais en grâce. Avec Dieu, il n'y a pas seulement ce qui paraît, il n'y a pas même seulement la réalité, il y a la possibilité d'un autrement. L'autrement de la confiance créatrice et recréatrice. Et il ne s'agit pas d'une revanche ou d'une vengeance sur la défaite ou la faiblesse. Il s'agit d'une autre manière de voir et de penser, un renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire aussi une conversion. Finalement, ce que ce récit nous donne à lire, c'est la première bataille de Gédéon. Et c'est un combat intérieur pour qu'il se débarrasse de la croyance que Dieu devrait agir tout seul pour passer à la confiance de l'avec toi, pour s'ouvrir à une parole de création et de bénédiction, pour entrer dans l'alliance offerte, pour comprendre qu'il n'est pas destiné à demeurer passif, soumis aux événements et à la peur. Un combat intérieur grâce à Dieu. Un combat dont l'issue est le shalom en Gédéon. Gédéon qui, lorsque l'Éternel disparaît, construit un autel qu'il appelle Éternel Paix. Amis, frères et sœurs, nous aussi, nous pouvons construire sur la spiritualité, le sens, la justice et la confiance. Construire non pas un autel, mais construire un chemin et peut-être même un monde de paix. Amen.